Bonjour à tous. Dans l'évangile de Marc, et dans ce seul évangile, il est relaté une histoire, l'histoire d'une guérison un peu particulière, peut-être même bizarre, parce que Jésus s'y prend à deux fois. On a l'impression qu'il tâtonne. Et vous savez de quelle guérison il s'agit ? L'aveugle. Donc, la guérison de l'aveugle de Bethsaïda. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Marc. Et avant d'arriver à ce texte, nous lirons à partir du verset 11. Chapitre 8, pardon. Marc, chapitre 8, à partir du verset 11. 11 à 26. Donc vous l'aurez compris, nous continuons la série sur l'étude du livre de Marc. Marc, chapitre 8, à partir du verset 11. Des pharisiens arrivèrent et engagèrent une discussion avec lui, c'est-à-dire Jésus. Il lui demandait de leur faire voir un signe miraculeux qui viendrait du ciel. Il lui tendait un piège et Jésus poussa un profond soupir et dit « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux ? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » Il les quitta, remonta dans la barque et parti pour l'autre rive. Verset 14, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Or, Jésus leur recommanda, « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. » Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain. Pourquoi ? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas ? Votre intelligence est-elle aveuglée ? Avez-vous des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre ? Ne vous souvenez-vous pas, quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5 000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, vous ne comprenez toujours pas ? Vous ne comprenez toujours pas ? Et là on arrive à cette histoire de la guérison de l'aveugle. Verset 22, ils arrivèrent à Bethsaïda, on amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui et en lui disant « Ne rentre pas dans le village. » Vous vous souvenez de l'étude des premiers chapitres de Marc ? Où Jésus a commencé son ministère, il a choisi ses disciples, il les forme progressivement, il accomplit de nombreux miracles, il a guéri des malades, il a marché sur l'eau, il a multiplié le pain à deux reprises, et malgré tout, les pharisiens lui redemandent un signe. Est-ce que c'est avec un signe de plus que les pharisiens croiront en lui? En tout cas, Jésus ne leur accorde pas satisfaction. Jésus est même exaspéré par leur comportement. Jésus poussa un profond soupir et dit « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux ? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur en sera accordé aucun. » Quand on lit dans l'évangile de Matthieu, on a un complément d'information. Jésus dit « il ne leur sera accordé aucun si ce n'est le miracle de Jonas. » Comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme passera également 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Pour Jésus, ce n'est pas d'un miracle de plus, d'un miracle supplémentaire dont ils ont besoin, mais ils ont besoin du miracle suprême, Jésus lui-même. Ils ont besoin de son ministère, de sa prédication, ils ont besoin de sa mort et de sa résurrection. Le verbe qui a été utilisé ici pour dire qu'il voulait tenter Jésus, il voulait lui tendre un piège, est le même qui est utilisé lorsque le diable tenta également Jésus dans le désert. Ce n'était pas d'un miracle supplémentaire que les pharisiens voulaient, mais ils voulaient plutôt tendre un piège à Jésus. Faire en sorte que Jésus accomplisse un miracle juste pour son propre intérêt. Comme le diable, si tu es le Fils de Dieu, fais pour que Jésus montre qu'effectivement il est le Fils de Dieu. Il voulait que Jésus tombe dans ce piège-là, d'accomplir un miracle dans son propre intérêt. Mais Jésus n'est pas tombé dans ce piège. Même sur la croix, les chefs religieux et les pharisiens ont continué de crier et dire à Jésus « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et alors nous croirons en toi. » Encore besoin d'un miracle supplémentaire. Jésus n'est pas descendu de la croix parce qu'il savait pourquoi il était venu. Mais miracle encore plus extraordinaire, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts. Et malgré tout, les pharisiens ont toujours cherché à inventer des histoires pour refuser de croire en celui qui était venu, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pourtant, ils avaient entendu des paroles incroyables sortir de sa bouche. Il l'avait vu faire des miracles extraordinaires comme personne avant lui. Ils étaient rentrés en contact de cet homme, ce Dieu fait homme, cet homme sans péché. Combien de prophètes de l'Ancien Testament avaient soupiré, avaient voulu vivre aux côtés de Jésus, être les contemporains de Jésus et vivre à ses côtés pour le voir agir, apprendre de lui. Ils étaient la génération privilégiée, mais ils n'ont rien compris. Rien compris car leur aveuglement était terrible. Ils étaient complètement dans les ténèbres. Ils voyaient, ils regardaient mais ne voyaient pas. Ils entendaient mais ne comprenaient pas. Et c'est pour eux l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 6. On en avait déjà parlé au chapitre 4, lorsque, après la parabole du semeur, les disciples demandent à Jésus « Pourquoi tu nous parles en parabole ?» Et Jésus lui dit « C'est à vous qu'est révélé les secrets, que sont révélés les secrets du royaume, et non pas à eux. » pour qu'ils entendent, mais ne comprennent pas, qu'ils voient, qu'ils regardent, mais ne voient pas, de peur qu'ils se convertissent. Ils étaient aveuglés, non pas parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de voir, mais parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas voir. Sans aucun miracle, Ninive a cru et s'est repentie suite à la prédication de Jonas. Et justement, dans Matthieu, Jésus dit, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de ce siècle parce que Ninive a changé suite à la prédication de Jonas. Et là, il y a plus grand que Jonas. Et nous, avons-nous besoin d'une preuve supplémentaire pour croire en Dieu? Avons-nous besoin réellement d'un miracle de plus pour accepter de placer en Dieu notre confiance? Ou cherche-t-on juste un prétexte pour ne pas nous abandonner complètement à lui? Comme pour les pharisiens, Dieu ne satisfera peut-être pas notre demande. Il ne nous accordera peut-être pas un miracle de plus. Parce qu'il sait que ce n'est pas en réalité ce dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ et Christ seul. Nous avons besoin de placer notre confiance en lui, accepter qu'il est tout, qu'il est capable, qu'il est celui de nous, qui est capable de nous pardonner nos fautes comme Jean-Yves nous l'a rappelé ce matin. Quelle est ton excuse aujourd'hui? Es-tu aveugle au point de refuser de voir les œuvres de Dieu dans ta vie? Les disciples aussi étaient d'une certaine façon aveuglés. Au verset 14, alors qu'ils avaient oublié de prendre du pain, en fait ils n'avaient juste pris qu'un seul pain, la Bible nous le dit, ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus, qui pensait encore à ce qui s'était passé avec les pharisiens, leur dit « Gardez-vous du levain des pharisiens et d'Hérode. » Et tout de suite, les disciples pensent que Jésus leur parle de pain. On est tranquille dans la barque, on a discuté avec les pharisiens, on repart, et tout d'un coup, Jésus nous dit « Gardez-vous du levain des pharisiens. » Nous, on pense que c'est parce qu'on n'a pas pris de pain. À ce moment-là, on a faim et Jésus nous dit « Gardez-vous du levain des pharisiens. » C'est vrai que, quelque part, on a un peu oublié quand même, il faut le dire, ce que Jésus avait fait à deux reprises. Jésus avait nourri 5000 hommes avec 5 pains, 4000 avec 7 pains. Et c'est vrai, on l'avoue, on a un peu oublié. On a pensé que parce qu'on n'avait qu'un seul pain, Jésus nous réprimandait. Et là, Jésus, un peu fâché, un peu étonné de notre incrédulité, nous dit « Quoi ? Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain ?» Et Jésus pose une série de questions. Pourquoi ? Vous ne comprenez pas encore, vous ne saisissez pas encore, votre intelligence est-elle aveuglée ? Avez-vous des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre ? Et là, Jésus, en bon pédagogue, appelle au bon souvenir des disciples. Qu'est-ce que vous faites des 5000 personnes que j'ai nourries avec juste 5 pains? Qu'est-ce que vous faites des 5000, des 4000 personnes que j'ai nourries seulement avec combien de pains? 7 pains. Et combien de morceaux à chaque fois en avez-vous emporté? Vous pensez vraiment que c'est parce que vous n'avez qu'un seul pain que je vous pose cette question? Vous pensez vraiment que je ne suis pas capable de prendre soin de vous juste parce que vous n'avez pas de pain ou parce que vous n'avez qu'un seul pain? Vous, 12, une poignée de disciples? Voyons, réfléchissez un peu. Pierre, Jacques et Jean. Vous ne comprenez toujours pas. Si je l'ai fait pour 4 et 5 000, je peux le faire aussi pour vous. En fait, Jésus leur parlait de toute autre chose. Jésus voulait qu'ils prennent garde à la manière d'agir des pharisiens. Les pharisiens étaient ancrés dans leur tradition avec une pureté profondément rituelle et extérieure qui méconnaissait le vrai problème de l'homme, son cœur. Et leur tradition les conduisait à l'hypocrisie et à l'oubli de la bonté de Dieu. Et Jésus voulait prévenir les disciples par rapport à ce comportement. Ne pas avoir une chrétienté de façade. Jésus voulait aussi peut-être prévenir les disciples de l'aveuglement des pharisiens. De faire attention à ne pas tomber dans ce genre d'aveuglement. Parce que, de peur qu'à un moment donné, Jésus, comme il est dit au verset 13, pour les pharisiens, il les quitta, remonta dans la barque et partit pour l'autre rive. Si volontairement on refuse de croire en Jésus, on refuse de lui accorder tout crédit, on refuse de placer notre confiance en lui volontairement, non pas parce qu'on ne comprend pas, mais parce qu'on est... On ne veut pas comprendre, à un moment donné, Jésus va quitter. Jésus frappe encore aujourd'hui à la porte de notre cœur. Et aujourd'hui encore, c'est le temps de la grâce, c'est le temps du salut. Aujourd'hui encore, on peut lui ouvrir la porte de notre cœur. Faisons attention à ce qu'à un moment donné, Jésus ne frappe plus. Jésus quitte. Et partent. Et à ce moment, il n'y aura plus de salut pour nous. Gardez-vous du levain d'Hérode. Hérode, vous avez vu aussi l'histoire d'Hérode dans les chapitres précédents, qui était à l'écoute de Jean-Baptiste. Il aimait écouter Jean-Baptiste, il aimait ses discours. Mais il était un peu sceptique quand même. Il ne croyait pas. Je vais t'écouter là-dessus un autre jour. Gardez-vous donc du scepticisme. Gardez-vous aussi de l'immoralité d'Hérode. Vous savez qu'il avait pris la femme de son frère. Gardez-vous de la mondanité d'Hérode. Le levain du royaume, contrairement au levain des pharisiens et d'Hérode, le levain du royaume, c'est celui qui honore la foi, par exemple, de cette femme rituellement impure, car elle était d'origine païenne, qui est venue réclamer la guérison de son enfant. Et Jésus a pris compassion d'elle, il l'a guérie. Le levain du royaume, c'est celui qui guérit le cœur, qui nourrit la foule, qui transforme les vies. C'est quand même incroyable de penser et d'imaginer que les disciples soient aussi aveuglés à ce point. Après tout ce qu'ils ont vu, ils ont été avec Jésus dès le début. Ils ont vu ses miracles s'accomplir devant leurs yeux. Ils ont vu Jésus transformer des vies. Ils ont vu Jésus guérir des centaines de maladies, chasser des démons. La Bible nous dit que tous les livres du monde n'auraient même pas pu contenir tous les miracles que Jésus aurait accomplis. Tous les miracles de Jésus ne sont pas renseignés dans la Bible. Rien que ce qui nous est suffisant est renseigné dans sa parole. Les disciples avaient vu plein de choses. Ils avaient même goûté au pouvoir de Jésus. Parce que lorsque Jésus les a envoyés, ils ont pu chasser des démons au nom de Jésus. Ils ont pu guérir des malades. Ils ont assisté en tant que témoins privilégiés à la multiplication du pain par deux fois. Malgré tout, ils ne comprennent pas grand-chose non plus. Ils sont un peu comme aveuglés, un peu perdus. Leur vision est un peu floutée. Mais contrairement aux pharisiens qui étaient complètement dans les ténèbres, les disciples percevaient de loin les réalités divines sans trop comprendre leur portée. Leur vision était voilée. Qu'en est-il de nous ? C'est facile de faire le reproche aux disciples. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Les disciples, il leur manquait encore un bout de révélation. Il leur manquait le message de la croix. Il leur manquait Jésus-Christ ressuscité. Nous, nous avons la parole. Nous savons ce qui s'est passé. Nous avons appris à connaître Jésus. Tous les miracles qu'il a accomplis. Tout le cheminement du salut, tous les miracles que Dieu accomplit de Genèse à l'Apocalypse. Mais combien de fois, parfois, et peut-être même souvent, nous doutons. Souvent, nous limitons Dieu à nos circonstances, par nos circonstances difficiles. Nous oublions facilement ce qu'il a fait, déjà dans sa parole, et même ce qu'il a fait pour nous. Qui peut dire ici aujourd'hui que Dieu n'a jamais rien fait pour lui dans sa vie ? Parfois même de manière peut-être extraordinaire. Sommes-nous aveugles, comme les disciples, au point d'oublier les bienfaits de Dieu dans notre vie ? Au point de sombrer peut-être dans la tristesse ou la dépression quand les choses tournent mal. On arrive là vraiment à un processus où Jésus est en train de former ses disciples progressivement. Et on arrive un peu à l'apogée de cette première phase de formation des disciples. Mais Jésus s'étonne de voir que les disciples n'ont pas tout compris, toujours pas. Jésus veut vraiment les amener à comprendre qui il est réellement, qui est ce serviteur dont parle Ésaïe 42, qui a été établi pour être la lumière du monde, celui qui a été établi pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers et de la maison d'arrêt, ceux qui habitent dans les ténèbres. Et c'est dans ce contexte qu'arrive l'histoire de la guérison de cet aveugle. On peut se poser de nombreuses questions par rapport à ce récit. Pourquoi Jésus ne le guérit pas de façon instantanée? Pourquoi Jésus utilise des choses un peu bizarres pour le guérir? Pourquoi il s'y prend deux fois? Pourquoi il le conduit hors du village? Pourquoi? La Bible ne nous dit pas en tout cas pourquoi Jésus a choisi de guérir cet aveugle de façon progressive. Il y a plusieurs hypothèses, mais simplement ce que moi je retiens ici et par rapport à la lecture que nous avons faite, Jésus veut montrer vraiment le parallèle entre l'aveuglement des pharisiens, l'aveuglement des disciples et l'aveuglement de cet homme. Jésus mouille les yeux de l'aveugle avec sa salive et lui imposa les mains. Il lui demande : dis donc, est-ce que ce que je t'ai fait là, avec ce que je t'ai fait, tu vois quelque chose ? Ça marche ? Et l'aveugle, certainement, regarde Jésus et lui dit : mais j'aperçois des choses, mais je vois des hommes, mais en fait, ils sont comme des arbres qui marchent. Est-ce que Jésus est en train de tâtonner? Est-ce que le dosage du médicament de la salive de Jésus n'était pas approprié? Est-ce que Jésus n'a pas bien dosé? Ou est-ce que Jésus sait ce qu'il fait? D'ailleurs, le miracle de la guérison d'un aveugle. Ce passage n'est pas le seul qui nous le raconte, mais c'est le seul où Jésus s'est pris à deux fois. On connaît l'histoire de l'aveugle de Bartimée, qui a entendu Jésus passer, il a demandé c'était qui, on lui a dit c'est Jésus, il a couru, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, et Jésus qui se retourne et lui dit simplement, va, parce que tu as cru, tu as été guéri. Jésus était capable de le faire pour cet aveugle. On a aussi cet aveugle où Jésus, les gens lui amènent un aveugle de naissance. Jésus prend toujours la salive, mais cette fois-ci, au lieu de l'appliquer directement sur les yeux, il fait de la boue. Il l'applique sur les yeux, il dit à l'aveugle d'aller se laver dans le réservoir de Siloé. Il s'en va, et quand il revient, il voit clairement. Tous les miracles de guérison que nous avons vus depuis le début du chapitre 1 de Marc jusqu'à maintenant, c'est des guérisons instantanées. Mais là, Jésus s'y prend autrement. Premièrement, Dieu est souverain. Dieu n'a de compte à rendre à personne de la manière dont il fait les choses. Il les fait comme il veut et de la manière qu'il veut. Et deuxièmement, je pense aussi que peut-être ce qu'on peut retenir de cela, c'est que Dieu ne fait jamais rien d'inachevé. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 6, que celui qui a commencé son œuvre l'amènera jusqu'à son achèvement. Dieu ne fait jamais rien d'inachevé. Mais ici aussi, il voulait montrer, comme je le disais tout à l'heure, que les pharisiens Il voulait montrer à ses disciples que les pharisiens étaient dans un aveuglement terrible. Première situation de cet aveugle. Complètement dans les ténèbres, ils ne voyaient rien, malgré tout ce qu'il leur a apporté. Et que eux, les disciples, avaient déjà commencé à percevoir des choses. Ils étaient dans la deuxième situation de l'aveugle lorsque Jésus lui a appliqué la première fois, lui a appliqué la salive sur ses yeux. L'aveugle voyait, mais pas très clairement. C'était la situation des disciples. La manière dont Jésus a guéri la cécité physique de cet homme illustre aussi comment la cécité spirituelle sera vaincue. Le fait que l'aveugle n'ait pas vu distinctement pour la première fois peut aussi vouloir montrer que les disciples ont besoin d'un complément d'information pour tout assimiler et pour tout voir clairement. Le message, complément d'information, le message de la croix. Notre guérison spirituelle est un processus continu. Nous ne comprenons certainement pas clairement les vérités bibliques lorsque nous nous convertissons, lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Une bonne partie de notre cécité spirituelle demeure. Mais notre foi en Dieu, notre attachement à sa parole, notre obéissance, notre croissance spirituelle nous amène à connaître jour après jour mieux Jésus, à le connaître davantage, lui, l'auteur et le consommateur de notre foi, ce qui a pour finalité d'éclairer chaque jour notre vision spirituelle par la seule puissance de son Saint-Esprit. Les disciples voient flou, leur guérison prend du temps, mais vous allez voir, après, toujours dans ce chapitre 8, dans les versets qui vont suivre, que leur guérison va prendre un cap, va franchir un cap décisif, notamment au verset 29, lorsque Jésus va leur demander, il va faire d'ailleurs le point, un peu la synthèse de leur première période de formation en disant, mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et vous, que pensez-vous de moi? Que dites-vous que je suis? Et là, enfin, Pierre, qui aura compris, qui commencera à comprendre, parce qu'il n'aura pas tout compris, commencera à comprendre, dira, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous, vous ne comprenez toujours pas, c'est la question qu'a posée Jésus à ses disciples, et nous, est-ce que nous sommes aveuglés encore comme les disciples? Est-ce qu'il y a des choses dans notre vie chrétienne qu'on ne comprend pas? C'est possible. Mais nous avons aussi besoin de Christ pour nous éclairer sur ces choses-là. Nous devons reconnaître que Jésus est la lumière du monde, qu'il est celui qui peut chasser les ténèbres de notre cœur. Il est celui qui est capable de nous rendre la vue afin que nous voyions et que nous sachions que Christ est Seigneur, qu'il est le Messie, le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné dans les cieux et sur la terre par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Pour terminer, nous n'avons pas besoin de preuves supplémentaires pour donner notre vie à Jésus. Mais nous avons simplement besoin de Christ. Et aujourd'hui encore, il frappe à la porte de notre cœur. Aujourd'hui encore, c'est le moment. Si vous ne l'avez pas vous ne lui avez pas ouvert la porte, vous avez encore aujourd'hui cette grâce de le faire. Et je vous en supplie, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, de peur que Jésus ne quitte, ne frappe plus. Ne limitons pas Dieu par les circonstances de notre vie. Faisons-lui confiance pour prendre soin de nous. Quelle est votre réponse ce matin ? Ouvrez votre cœur à Jésus, faites-lui confiance et ne sombrez pas dans l'aveuglement. Amen.